Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Conversation Pro. Conversation Pro est un podcast où vous entendrez le retour d'expérience de professionnels qui ont su saisir les opportunités pour évoluer dans leur carrière. Vous découvrirez les outils, les stratégies, astuces qu'ils ont utilisées et qui pourraient vous aider à votre tour pour atteindre vos objectifs professionnels. Je suis Vanessa, ingénieure, entrepreneur sociale et passionnée de développement personnel et professionnel. Bonne écoute!
Bon, bonjour à tous et bonne année 2023. Je vous souhaite d'accomplir toutes les bonnes choses que vous aurez souhaitées et méritées. Je vous souhaite une année pleine de belles réalisations et surtout d'épanouissement professionnel. Nous démarrons cette année avec une nouvelle saison du podcast. Et pour ce premier épisode, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Marc-Arthur Golitti, entrepreneur, enseignant-chercheur à la Schema Business School, auteur de plusieurs publications scientifiques sur les sujets d'innovation stratégique dans le domaine de la santé notamment. Marc est un communicant, un passionné d'art et de sciences, d'économie, de stratégie. Vous l'aurez bien compris, Marc est un passionné. Impossible de lui coller une étiquette. Nous allons découvrir tout au long de cet échange le parcours riche, éclectique de ce passionné. Qu'est-ce qui le drive au quotidien et quelles sont ses clés de réussite ? Bonjour Marc-Arthur.
Bonjour Vanessa.
Comment tu vas ?
Bah, très bien, et toi ?
Oui, ça va très bien. Je suis très ravie de te recevoir sur le podcast. Je pense, si tu me le permets, on peut dire qu'actuellement tu es à Abidjan, c'est bien ça ?
Oui, en effet, je suis à Abidjan.
Super. Alors, comment peux-tu nous décrire l'atmosphère en ce moment à Abidjan ? Il paraît qu'il fait très bon vivre.
Il y a du soleil, il fait, on va dire, bon vivre, mais il y a quand même beaucoup de poussière. C'est la période qu'on appelle l'harmattan, donc avec du vent un peu sec et chaud le matin et un peu frais le soir, mais chargé de poussière qui vient du nord du pays, un peu plus au nord, un peu du Sahel et des choses comme ça.
D'accord. Bon, ben, j'espère que ça ne s'accompagne pas de toux, de grippe, comme en ce moment à Paris.
Généralement, si.
Ah.
Généralement, si. C'est un peu la période.
Ok, ok. Bon, ben, alors, prenons soin de nous tous. Alors, si tu es d'accord, je propose qu'on démarre cet échange. Peux-tu te présenter aux auditeurs de la façon dont tu le souhaites ?
Merci Vanessa. Je suis Marc-Arthur Golitti, entrepreneur. Entrepreneur depuis, on va dire, une douzaine d'années, mais aussi chercheur sur les questions d'innovation stratégique, d'innovation de business model. Et voilà, enseignant, quand je le peux. Je vis à Abidjan, un peu sur les capitales de la sous-région, mais principalement à Abidjan. Et donc voilà, je me définis à la base comme un entrepreneur. Je pense que ça me correspond mieux.
D'accord, c'est très clair. Marc, je vais reprendre l'extrait d'une citation de Steve Jobs que tu as partagée récemment. C'est la suivante. « La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Ne vous contentez pas du peu. » C'est un petit peu comme dans les relations amoureuses. Marc, à travers ton parcours, on comprend rapidement que tu es quelqu'un de passionné. Toutefois, la passion suffit-elle toujours ? Quels sont tes leitmotivs ?
Je vois que tu as été zoné sur mes médias sociaux, même aujourd'hui. Parce que cette publication, justement, je l'ai faite aujourd'hui, ce matin.
Tout à fait.
Donc, tu es vraiment au taquet. Alors, pour moi, la passion, c'est, on va dire, l'élément principal. Et après la passion, il y a quand même le désir de faire bouger les lignes, on va dire de l'ambition. Il y avait une autre citation là qui parlait d'ambition et qui dit que l'ambition, c'est le désir de faire changer les choses. Donc, on va dire la passion, l'ambition et une ambition assez grande pour, on va dire, le continent africain. Généralement, c'est ça. Et puis, après, ou sinon, avant tout, une foi en Dieu bien ancrée.
Ok, très bien. Est-ce que, enfin, parce que cette citation m'a fait également penser, tu sais, à la notion de sweet spot. Il s'agirait de cet état d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et du coup, j'avais une question à te demander. Est-ce que aujourd'hui, tu as atteint ton état de sweet spot ou est-ce que tu le recherches encore?
Ah, je suis un éternel insatisfait. Je pense que ça répond à ta question, mais je suis en quête. On va dire ça. Je suis vraiment en quête. Chaque jour, enfin, les choses bougent, les défis aussi. Mais voilà, on essaie de tendre vers. Je suis pas sûr qu'un jour on atteindra à l'état que tu décris, mais on travaille à. On va dire ça comme ça.
Ok, ça marche. Alors, tu t'es formé à l'université d'Abidjan, ensuite à la Georgetown University, puis à la London School of Economics, ensuite l'INSEC School of Business and Economics. Aujourd'hui, tu disposes d'une thèse en médecine, puis une thèse en sciences de la gestion. Pourquoi as-tu choisi d'allier la science, la médecine et les affaires?
Je ne sais pas trop, mais certainement, je pense que ça vient de l'enfance. Ça vient de l'enfance. Mon premier rêve d'enfance était d'être médecin. Premièrement. Et généralement, quand on grandit ou quand on est à l'école, je pense que les choses peuvent se modifier au fur et à mesure. Mais je me rappelle que quand j'étais en classe de seconde, j'ai été frappé par le parcours d'un entrepreneur ivoirien. Et je me suis dit, ah, mais tiens, ça doit être intéressant d'être chef d'entreprise. J'aimerais bien aussi. OK? Et donc, pour moi, la science, donc la médecine et la vie d'entrepreneur ou de chef d'entreprise, pour moi, c'est mes deux rêves. Et il est arrivé un moment où j'ai compris que je pouvais combiner les deux. Et donc, c'est comme ça que quand j'ai fini de faire médecine, ben, j'ai voulu poursuivre des études d'école de commerce, de sciences de gestion, ce que j'ai fait. Et bon, voilà, j'ai trouvé, on va dire, le moyen de combiner les deux, c'est-à-dire les études scientifiques de médecine et les études de sciences de gestion. En même temps, quand on en parle comme ça, ça peut sembler éloigné, mais il y a des passerelles. Il y a des passerelles. Mmh. Moi, quand j'ai étudié médecine, j'ai fait de la pharmacoéconomie. OK, et donc ça ouvrait déjà sur tout ce qui était principe économique appliqué au secteur de la santé et les technologies appliquées dans le secteur de la santé en général. Et la passerelle était tout trouvée. Je ne me sens pas dépaysé quand je parle d'innovation thérapeutique ou d'innovation technologique ou même d'innovation stratégique. Pour moi, ça obéit à un même fil rouge. Et donc, dans le fond, il n'y a pas autant de différence que ça.
Ok, très bien. En effet, on voit tout de suite plus clairement les liens, les synergies entre ces deux domaines. Tout à l'heure, tu as dit que, donc un peu plus jeune, en fait, c'est en observant un entrepreneur, ivoirien, que voilà, tu as eu cette envie, tu as eu ce déclic. Pour toi aujourd'hui, que représentent les rôles modèles, enfin, en tout cas, quelle importance accordes-tu aujourd'hui aux rôles modèles et ou aux mentors en fait dans la mise en place, la poursuite d'une carrière?
C'est un élément très important. C'est un élément très important qui permet de façonner et de mûrir, on va dire, nos ambitions, nos désirs, et qui permet de... C'est un peu comme si on accrochait notre char, je ne sais pas, à une étoile, etc., une étoile filante qui nous tire, mais il faut bien accrocher sa pensée, son idée quelque part, dans un premier temps. Donc, la personne qui vous... la personnalité qui vous sert de rôle modèle est très, très déterminante. Et quand je regarde vraiment en arrière, je me rends compte que je suis un peu un composite de tous les rôles modèles que j'ai eus et de toutes ces personnalités ou personnes à qui j'ai accroché un peu mon char. Voilà, je suis un peu un composite de tout ça. Et donc, c'est quelque chose de très important, en fait.
Et est-ce que tu as des tips, des conseils pour bien les choisir, en fait, enfin, comment on doit choisir, en tout cas, enfin, plus par rapport au mentor, parce que des fois, bah, les role models, on n'a pas l'opportunité, enfin, pas souvent, de pouvoir les rencontrer, les atteindre. Mais aujourd'hui, comment on choisit son mentor ?
Je sais pas, est-ce qu'on choisit son mentor ou est-ce que ce sont nos mentors qui nous choisissent? il y a un endroit là au milieu où les deux se croisent. Mm-hmm. Est-ce que j'ai eu des mentors? On va dire oui, j'en ai eu deux.
Okay.
J'en ai eu deux. Le premier, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai choisi ou si c'est lui qui m'a choisi. Je sais juste qu'en fin de cycle d'études de sciences médicales, je suis entré au service de pharmacologie clinique. Et au service de pharmacologie clinique de l'Université d'Abidjan, j'ai rencontré celui qui était le chef de service, qui s'appelle, il est toujours vivant, professeur Djikaku Henry. Celui-là, beaucoup d'admiration pour lui. Je ne le connaissais pas. Je l'ai vraiment rencontré en allant au service de pharmacologie clinique. Mm-hmm. Donc, c'était mon boss, on va dire comme ça. Mais il avait quelque chose qui me séduisait. Une certaine rigueur au travail, un certain esprit d'ouverture, aussi sur le monde de l'entreprise. Une certaine originalité, je ne pense pas qu'on en fasse deux comme le professeur Djikaku Henry. Et pour moi, c'était tout bénin parce que j'aime vraiment les gens plutôt originaux. Et celui-là, il détonnait de tout ce que j'avais l'habitude de voir comme professeur à la fac de médecine. Donc pour moi, c'était le premier mentor. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, il doit me considérer un peu comme un fils. Et moi, je me plais à le considérer comme un père pour moi. Donc, il y a eu celui-là. Et il y en a eu un autre qui, en école de commerce, qui se trouve être mon chef de département aujourd'hui à Schema Business School, au département de management du luxe de Schema Business School. Lui, je l'ai rencontré quand je cherchais à entrer en école de commerce. La même chose, original, très éclectique, brillant. Et je pense que c'est celui qui m'a fait comprendre que je pouvais tout faire et qu'il ne fallait pas que je me mette des limites. Un profil très particulier. Donc, c'était d'abord un PhD en chimie, quelqu'un qui a fait carrière dans l'industrie pharmaceutique et ensuite dans l'industrie du luxe, en parfumerie et tout ça. Il est devenu ensuite, je pense, un des plus brillants profs de marketing et de management du luxe que je connaisse. Il a créé et développé un des départements de management du luxe, je pense, les mieux cotés au monde. Et donc, celui-là, c'était mon deuxième mentor. Et étrangement, c'est des gens avec qui j'ai travaillé, ou on va dire où je continue de travailler. Donc, je ne sais plus trop si c'est nous qui choisissons nos mentors ou c'est nos mentors qui nous choisissent. Mais en tout cas, dans mon cas, ça a été quelque part au milieu.
Ok. Voilà. Non, mais ça s'entend. Et puis, on entend aussi la proactivité quelque part. Enfin, en fait, quelque part, tu es aussi aller les chercher sans peut-être avoir déjà une intentionnalité d'en faire des mentors. Mais voilà, tu n'es pas resté dans ton coin et ils sont venus à toi.
Voilà, c'est vraiment, ils sont venus à moi et d'une manière très particulière, vraiment très particulière. Entrer au service de pharmacologie, ce n'était pas quelque chose que j'avais planifié à la base. Moi, à la base, je voulais être neurochirurgien. C'est bien pour ça que je suis venu faire médecine. Et puis, il y a eu un concours de circonstances qui ont fait que je suis entré au service de pharmacologie. Je ne vais pas dire contre mon gré. Il y avait un concours, c'est un ami qui m'a inscrit, comme ça, sans me demander mon avis. Sans me demander mon avis. Il m'a dit, toi, tu feras un bon pharmacologue. Je dis, mais pourquoi? Il dit, je le sens, allez, vas-y. Et donc, je suis allé présenter le concours, comme ça, je ne savais pas trop.
Ouais.
Et effectivement, il avait bien vu. Cet ami-là, il est psychiatre aujourd'hui, il avait bien vu. Okay. Ça me correspondait vraiment. Et voilà. Et pour l'autre, pour ce Ivan Kostmanier, il s'appelle, celui d'école de commerce, je l'ai rencontré lors d'un entretien et le fait est qu'il n'était pas prévu, je n'étais pas prévu passer dans ce jury-là, le jury qu'il présidait, mais dans un autre. Et ça a été annulé, ça a été modifié, puis à la fin des fins, je suis tombé dans ce jury-là. Et puis bon, ben voilà, c'est parti. Et puis c'est parti, on ne s'est plus lâché depuis. Donc c'était, dame sérendipidité, c'est pointé sur mon chemin, deux fois.
Deux fois.
Oui.
Effectivement, on pourrait parler de coïncidence en effet, mais il y en a beaucoup qui croient que dans la vie, il n'y a pas vraiment de coïncidence.
Ouais.
Très bien. Marc, aujourd'hui, le métier de chercheur n'est pas toujours valorisé à sa juste valeur dans certains pays, notamment la France, le pays que je connais un petit peu le mieux aujourd'hui. Je voulais te demander, qu'en est-il de ton expérience sur le continent, à Abidjan par exemple? Comment as-tu réussi à valoriser ces expériences en fait, de chercheur dans ton parcours actuel, notamment ton parcours d'entrepreneur?
C'est assez simple. Je me suis arrangé, on va dire ça comme ça, je me suis arrangé pour faire de la recherche sur des secteurs ou des industries sur lesquelles j'ai aussi des activités entrepreneuriales. Donc, que ce soit les industries créatives et culturelles, avec l'industrie du luxe, les arts visuels, etc. Que ce soit dans le secteur de la santé ou dans le secteur de l'économie numérique, je fais vraiment de la recherche. Je me suis arrangé pour que ce soit comme ça. Et donc, du coup, j'applique pour beaucoup les résultats des recherches que je mène dans certaines de mes activités entrepreneuriales. Et ça me permet donc, même quand je ne les applique pas dans mes propres activités entrepreneuriales, de pouvoir faire une passerelle avec d'autres entrepreneurs ou des écoles où il y a des chaires qui essaient de faire la jonction entre la recherche et la vie professionnelle, la vie d'entreprise. Donc, j'arrive vraiment à faire la jonction. Donc, je ne sens pas trop ce qu'on appelle cette dévalorisation-là qu'on fait de la recherche, parce que je me suis créé un cadre, je me suis créé un écosystème dans lequel je pouvais aller d'un côté à l'autre sans vraiment trop de difficultés.
Ok, c'est intéressant à savoir. Et également, Marc, tout récemment, en tout cas, moi, en préparant cet échange, j'ai découvert que tu étais également investi dans tout ce qui était communication. D'ailleurs, actuellement, tu es le porte-parole d'un grand patron que je vais citer, donc qui s'appelle Tidiane Thiam, qui est un ancien DG du Crédit Suisse, ancien ministre ivoirien. Et la question que j'avais pour toi, c'est comment en arrives-tu là dans le domaine de la communication? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans, sachant que c'est vrai, on l'a compris, t'es quelqu'un qui aime découvrir des nouvelles choses, qui est porté par l'innovation, mais qu'est-ce qui te passionne en fait dans ce métier de la com et pourquoi aujourd'hui tu en es là?
Je ne sais pas, comment je vais dire, est-ce que je suis tombé dans la com de manière fortuite? Non, pas vraiment. J'ai commencé à à m'intéresser vraiment à la communication à travers les arts visuels. OK? Oui. Il faut savoir que j'ai été promoteur d'une galerie d'art. J'ai beaucoup travaillé avec l'École nationale des beaux-arts ici sur différents arts comme le design, la peinture et même la communication. OK? Et même la communication. J'ai travaillé dans des jurys de master 2 de ces différentes disciplines-là. Et donc, en travaillant sur les mémoires de communication des étudiants, chose que je faisais déjà professionnellement à travers, comment on appelle, la galerie et mon label d'art contemporain que j'avais créé à l'époque, ben pour moi, je ne voyais pas vraiment de différence, c'était la même chose. Donc, j'étais déjà très, très ancré dans ce domaine-là de la communication. Et puis, en travaillant sur les arts visuels, le monde des arts contemporains en général, j'étais tout le temps en train d'interagir avec la presse, OK, et les différents métiers de la communication. Tout le temps, je faisais que ça. Et donc, assez rapidement, j'ai développé un certain sens, on va dire ça comme ça, un certain sens de la communication en général. Mais, et puis, comme j'étudie aussi la stratégie, la communication est un moyen qu'utilisent les organisations pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Pour moi, ça allait de soi. Pour moi, ça allait de soi. Et donc, voilà, j'ai poussé, comme j'ai horreur de faire les choses à moitié. Et donc, j'ai poussé. Et donc, voilà. Là, actuellement, dans une université privée de la place, j'enseigne au département sciences de l'information et communication sur les questions stratégiques d'un certain ordre. Et donc, pour moi, j'étais pas très loin. C'est pas très loin puisque c'est quelque chose que j'ai fini par enseigner ou sur lequel j'ai travaillé. Donc voilà, pour moi, la com, c'est plus ou moins naturel. Maintenant, après, comment est-ce que ça arrive avec M. Tidjane Thiam, c'est une autre affaire. On va dire c'est la jonction entre ce dont je parlais tout à l'heure, donc l'ambition. Une ambition pour la Côte d'Ivoire par rapport à une certaine idée qu'on a de la Côte d'Ivoire, qu'on veut voir advenir. Et puis bon, voilà, c'est les choses l'une entraînant l'autre. C'est arrivé et on essaie de faire au mieux.
Ok, ça marche, c'est très clair. Et puis, ça me permet d'embrayer sur une autre question. Justement, parce qu'aujourd'hui, tu as décidé d'accompagner une personne qui a aujourd'hui une vision, une ambition pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que, enfin, aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que l'engagement et quel est le sens que tu veux y donner?
Alors, l'engagement, je pense que c'est en même temps le début et l'aboutissement de quelque chose. Je suis conscient que très peu ont eu la chance d'avoir la carrière que j'ai, plutôt éclectique, etc. Ont eu la chance de faire les études que je fais. J'ai quand même eu la chance d'étudier dans des écoles plutôt pas mal, de rencontrer des gens brillants, des gens excellents, des gens intéressants. Qui ont permis de façonner ma manière de voir les choses. Je me dis, quand on est un quadrat comme moi, à partir d'un moment, il faut penser à redonner un peu à la communauté. Et donc, pour moi, m'engager dans un projet pareil, c'est une manière pour moi de redonner à la communauté et d'essayer d'influer sur les choses. on regarde la communauté dans laquelle on vit, on voit ce qui s'y passe, on voit la vie publique, on se dit qu'on a envie d'influencer les choses, de peut-être les faire changer. On revient toujours à l'ambition, cette envie de faire changer les choses. Et donc voilà, ça paraît à la limite normal, en redonnant à la communauté d'essayer d'influencer la communauté pour l'emmener vers là où on pense que ça pourrait être mieux pour nos enfants, et etc.
On est très bien, bravo pour cet engagement. Donc on a bien compris, aujourd'hui, t'es chercheur, t'es communicant, t'es entrepreneur, tu as vraiment un parcours à multiples facettes. Dans une époque où on nous encourage à nous spécialiser, à être vraiment des experts à la pointe de nos domaines, que réponds-tu à cette politique de l'hyperspécialisation ?
Je ne sais pas si l'hyperspécialisation permet d'être à la pointe du domaine dans lequel on est. Mais pour moi, je trouve que c'est trop restrictif. Quand on a ma personnalité, c'est trop restrictif. Je disais tout à l'heure que j'aime bien aller au bout des choses que je fais. J'aime bien aller au bout des choses que je fais. Et donc, que ça ait été une vie de médecin, que ça ait été une vie, de commissaire d'exposition, une vie de chercheur ou une vie d'entrepreneur, je pense quand même que même si j'ai pas atteint le bout des bouts, franchement, je ne m'en sors pas très mal. En tant que commissaire d'exposition, j'ai quand même été commissaire pour le 8e jeu de la francophonie, et tout le monde s'est mis d'accord, les experts y compris, et la presse spécialisée s'est mise d'accord pour dire que les expositions qui ont été organisées lors des 8e jeux de la francophonie à Abidjan 2017 ont été les plus abouties depuis la création des jeux de la francophonie, par exemple. Je fais de la recherche dans un département de management du luxe qui est, je pense, un des mieux cotés au monde, ce qui est pas rien. Et quand même, je pense avoir apporté beaucoup dans la manière dont l'ingénierie de santé se pratique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et donc, voilà, je ne pense pas que le fait que j'ai plusieurs vies m'ait empêché de poursuivre un parcours d'excellence. Maintenant, ce que je dis, c'est que nous sommes des hommes et on n'est pas les premiers humains, on n'est pas la première génération. Il y a eu plusieurs générations avant nous qui faisaient plusieurs choses à la fois. Moi, une des personnalités que je respecte la plus s'appelle Ibn Sina, Avicenne, qu'on appelle aussi le prince de la médecine, okay, mais qui était à la fois un grand théologien, un des plus grands spécialistes des questions de l'âme dans l'islam et dans la théologie en général, mais aussi grand astronome, grand mathématicien. Tout ça, c'était Avicenne. Et il a poussé toutes ces vies-là jusqu'au sommet, je pense. Qu'est-ce qui devrait nous empêcher aujourd'hui de le faire, si ce n'est la volonté de se conformer à une politique en griffe d'hyperspécialisation? Rien ne nous oblige à le faire. Je veux dire, ces hommes-là, ils avaient un cerveau comme nous, deux oreilles, deux yeux, deux jambes. Ben, vraiment, c'était les mêmes que nous. Donc, il dépend, et les exemples comme ça, on peut en citer beaucoup. On peut en citer beaucoup. Parfait. Voilà, on peut en citer beaucoup, tout près de nous ou plus loin, mais vraiment, ça foisonne. Et je vous parlais tout à l'heure de Ivan Kosmanière, mais Ivan Kosmanière, du monde de la chimie à celui du luxe, on peut me dire que oui, tout de suite, la passerelle est là, mais le monsieur, il a été aussi champion olympique. Okay, c'était un athlète, il a été champion olympique. La preuve, il est aujourd'hui vice-président aussi de l'Association des académies olympiques francophones. Et c'est aussi lui qui m'a introduit dans ce monde-là de l'olympisme et tout ça. Et c'est des choses qu'il fait très très bien. Il a géré une municipalité à Grasse fort bien, ok. Donc une vie de politique, une vie d'enseignant-chercheur, une vie d'entrepreneur. Il a plusieurs brevets à son actif, ces brevets qui sont industrialisés par certaines industries qu'il a, que ce soit dans la pétrochimie ou l'industrie du luxe ou même l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est possible de le faire. Et celui-là, en particulier, c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il était possible de vivre une vie comme ça. Donc, voilà.
On est vraiment très clair. En tout cas, merci de nous édifier aussi avec des parcours comme ça et qui viennent finalement aussi nous renseigner sur le fait que c'est des choses qui sont possibles et qu'on a vraiment de très beaux exemples autour de nous. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur. Donc, tu entreprends depuis plusieurs années déjà dans le domaine du consulting, de l'économie digitale, de la santé notamment. Et pourquoi avoir choisi l'Afrique? Pourquoi as-tu choisi d'aller entreprendre en Afrique?
Pour la simple raison que j'ai l'Afrique chevillée au corps. Pour la simple raison, je suis un vrai afro-optimiste. Et je ne sais pas pourquoi on devrait être pessimiste quand on est africain d'ailleurs. Si on regarde l'histoire, le continent africain a été à la pointe de beaucoup de choses. Les gens citent l'écriture et tout ça, mais il n'y a pas que. Le continent africain a été à la pointe de beaucoup de choses. Et donc, pour moi, je pense que je suis un peu plus utile sur un continent où tout reste à faire, ou à refaire, on va dire, plutôt que sur un continent où presque tout a été fait. Comme je suis à la poursuite d'opportunités, mais vraiment tout le temps, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Je me considère vraiment comme un entrepreneur au sens schumpeterien du terme, c'est-à-dire de ceux qui impulsent la transformation des industries, la transformation des communautés dans lesquelles elles vivent. De ceux qui sont toujours à la poursuite, on va dire, de l'opportunité. Mm-hmm. Donc, pour moi, le continent africain, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Prenez n'importe laquelle des industries sur laquelle vous vous positionnez, parce que tout est à faire. Regardez dans le secteur de la santé. Regardez les hôpitaux, les systèmes de santé sur le continent.
Tout à fait.
Par exemple. Regardez là aujourd'hui la place qui reste à prendre par les créatifs africains dans le monde, on va dire, de l'industrie du luxe par exemple, ou de l'art contemporain, parce que tout est à faire, tout est encore à structurer, tout ça, même s'il y a des velléités, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Regardez tout le gap infrastructurel qu'on peut retrouver dans plusieurs secteurs comme le secteur financier et bancaire. On parle de plus en plus de questions d'inclusion financière, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire pour résoudre des questions pareilles avec les technologies digitales, tout est à faire. Et donc pour moi, le continent africain est le meilleur endroit. OK, est le meilleur endroit pour que je puisse m'exprimer pleinement et que je ne ressente pas beaucoup de frustration et que j'ai quand même on va dire l'impression d'être en train d'apporter quelque chose qui manque. Voilà.
C'est très clair. Et c'est vrai que quand on t'entend, on a l'impression et même quand on voit ton parcours, on a l'impression que c'est fait vraiment avec une étonnante facilité, mais on se doute quand même très bien que derrière, tu as dû rencontrer des épreuves, surmonter les difficultés. Est-ce que tu veux bien nous parler d'une ou deux difficultés majeures que tu as rencontrées sur ton parcours et surtout comment tu as pu les surmonter?
Alors, je pense que la plus grosse difficulté, ça a été la perte de ma mère. Je suis très, très attaché à ma mère. Donc, j'ai perdu ma mère au moment où j'étais carrément en fin de le cycle de mes études médicales, justement. Ça m'avait vraiment bouleversé beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont été à la fac avec moi, je pense qu'ils beaucoup me voyaient comme neurochirurgien. C'était même pour ça que j'étais allé faire médecine. Et ma mère, elle est décédée d'un cancer. Ça m'avait vraiment brisé. Je ne savais plus trop quoi faire. Il était pratiquement impossible pour moi de pratiquer de la médecine clinique. Cette médecine qui soigne les malades tout le temps, c'était très, très difficile. Et je pense que c'est cet état de fragilité qu'a vu mon ami et m'a proposé d'entrer au service de pharmacologie clinique et d'aller m'inscrire pour le concours, par exemple. Et je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu cette épreuve-là et que je n'étais pas en train de rechercher les moyens de surmonter tout ça, je ne serais peut-être pas devenu entrepreneur. Je le crois. Et la première entreprise, c'était une promesse que j'avais faite à ma mère, l'entreprise d'ingénierie, de santé et tout ça, c'était de contribuer à renforcer les plateaux techniques des hôpitaux dans la sous-région. Et donc voilà, cette difficulté-là m'a permis, on va dire, de me renforcer. Un peu comme le concept d'antifragile, qu'on entend souvent, le concept d'antifragile. Donc, il y a des chocs qui vous brisent au point où vous êtes obligé de vous réinventer. Et donc, ça, il y avait eu. Exactement. Et puis, il y en a eu bien d'autres, hein, quand on est entrepreneur. Alors, quand on est entrepreneur, il y a plusieurs challenges auxquels on est confronté. Et je sais pas si Christelle Sen, ça vous dit quelque chose. How will you measure your life? Ça vous dit quelque chose?
Non, du tout, mais n'hésite pas à nous.
Alors, Monsieur Christelle Sen était un des plus grands penseurs du monde du management moderne, surtout tout ce qui est lié au management de l'innovation, tout ce qui est disruption et tout. Et il a, dans ce livre qui s'appelle How Will You Measure Your Life, émis un certain nombre de principes pour, en français, c'est à quelle aune vous allez mesurer votre vie. OK? Donc, il parlait de la vie professionnelle, de la carrière professionnelle, de votre vie sentimentale, de votre vie de famille, et aussi comment est-ce que vous vous arrangerez pour ne pas vous retrouver en prison, par exemple, pour parler des soucis et des accidents judiciaires qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. D'accord? Et donc ça, c'est pour moi, c'est un des plus beau livre de Clayton Christensen, même s'il en a fait foison, parce que ce livre-là adresse les gens dans leur vie de tous les jours, pas seulement dans la vie d'entreprise, les technologies et tout ça. Et il disait que dans ce livre, qu'il y a une des questions qu'on doit se poser aussi, c'est comment est-ce qu'on s'arrange pour avoir le moins de soucis juridiques possibles. Et moi, dans ma vie d'entrepreneur, comme ça peut arriver, j'ai eu des soucis juridiques. J'ai eu des soucis juridiques, beaucoup de mauvaises foi d'actionnaires ou d'associés avec lesquels vous travaillez, ou dans un système juridique un peu faible comme celui dans lequel on vit ici sur le continent, malheureusement, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Vraiment, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Et quand vous perdez beaucoup d'argent, tout d'un coup, comme ça, on en revient un peu, je ne vais pas dire la case départ, mais on en revient à ce moment-là où vous devez vous réinventer, ok? Où vous devez vous renforcer, toujours antifragile. Et il y a des choses que je me disais que j'allais faire dans plusieurs années après, j'ai été obligé de les faire là maintenant pour amortir certaines chutes mais qui ont été dues à des questions juridiques où vous perdez beaucoup d'argent, par exemple. Donc ça, c'est des épreuves, c'est des difficultés, mais comme ceux qui nous écoutent peuvent supposer ou comprendre en filigrane, chaque fois que vous vivez une difficulté en tant qu'entrepreneur, je pense que ça doit être pour vous une occasion ou un moyen de devenir un peu plus fort, antifragile, et donc d'innover. Les accidents font partie des carrières, il faut savoir rebondir.
C'est très édifiant, merci Marc pour ce partage. Donc, nous arrivons à la fin du podcast. Ça a été vraiment très intéressant et le temps est passé vraiment, vraiment vite. Je termine d'habitude avec une question un peu plus, enfin, que je qualifie d'un peu plus intimiste. Donc, je te demanderai de compléter, de nous dire, tu ne serais pas là si...
Je ne serais pas là si je n'avais pas eu la mère que j'ai eue.
Ah, c'est fort, ça.
Celle-là m'a permis... elle était toujours convaincue qu'on pouvait atteindre les sommets à force de travail.
Très, très fort. En tout cas, merci beaucoup, Marc. Merci pour ce bel échange, vraiment cet échange riche. J'espère que notre conversation et ton parcours aura inspiré, motivé plus d'un. Qu'il aura décomplexé et encouragé toutes les personnes qui sont intéressées et passionnées par des tas de choses et qui ne souhaitent pas forcément rentrer dans des cases ou en tout cas qui ont peur de s'affirmer pour éviter tous les jugements. Donc vraiment merci beaucoup pour ton temps. Donc nous arrivons donc à la fin de l'épisode. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Je serai ravie d'échanger avec vous sur votre recherche d'emploi, l'évolution de votre carrière, sur les réseaux du podcast, LinkedIn, Instagram, Facebook. Marc, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voudrais rajouter.
Te dire merci. Merci pour l'opportunité et pour ta sympathie.
Merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup, Vanessa.
Vraiment, merci beaucoup. À très bientôt.
À bientôt.